venait d'entendre la lune chantée par Christophe Maé. Lucette, t'es dans la lune ?
Pas du tout. J'en suis à la minute de Dan Nasreddin. Nasreddin, c'est un personnage de l'extrême, du Moyen-Orient, pas de l'extrême, du Moyen-Orient. C'est le plus fou des sages, mais le plus sage des fous. Et ce soir-là, on demande à Nasreddin s'il préfère le soleil ou la lune. Il est bien ennuyé, puis dit bah, « Le soleil, il éclaire quand il fait jour. À quoi sert-il ? » Tandis que la lune, elle éclaire la nuit. C'est elle qui nous est le plus utile, c'est elle que j'aime le plus. Et il est rentré chez lui pour avoir une bonne nuit de sommeil en rêvant à la lune. Le lendemain soir, Nasreddin avait soif, il se dirige vers le seau où on mettait la réserve d'eau. Plus une goutte d'eau. Alors il prend le seau, il va au fond du jardin, et avant de lancer son seau, il regarde. Oh, catastrophe ! La lune est au fond du puits ! Alors il lance le seau, et puis il tire vite. Il se penche, la lune est toujours au fond du puits. Alors il rentre le seau d'eau chez lui, et puis il revient avec un seau si grand qu'il touche presque les parois du puits. Et puis il le remplit d'eau, et il le monte. Alors il tire. Il avait mis une grosse corde, mais c'était tellement lourd que ses forces lui manquent. Il tombe à la renverse sur le dos et il s'assomme moitié. Quand il revient à lui, toujours sur le dos, que voit-il dans le ciel ? La lune ! J'ai sauvé la lune ! Et il est rentré chez lui très joyeux parce qu'il avait fait une œuvre utile. Il avait sauvé la lune. La lune de miel est terminée. Quand le mari cesse d'aider sa femme à faire la vaisselle et qu'il la fait tout seul.
À moi donc avec mon billet d'humour. Et je me dis, tiens, si j'étais connu, célèbre, eh bien je ferais une compilation de mes billets et les ferais paraître. Qui sait ? On en parlerait peut-être assez à vous à Télématin. Mais ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Surtout qu'à 77 ans, ma ligne médiatique n'a même pas encore frémi. Une ligne aussi plate que l'électrocardiogramme de Schumacher depuis 20 ans, c'est dire. Alors l'ambition d'être connu à 77 ans, j'oublie trop tard. Et ces jours-ci, on a plutôt parlé de célébrités mortes, elles, à 77 ans. Nathalie Baye, Chantal Nobel... Ah bon, on meurt à cet âge-là ? Alors je vais m'accrocher. Et puis, la curiosité m'a piqué. J'ai donc été voir le camarade Wikipédia. Et là, la liste des gens connus dans notre jeunesse morts à 77 ans. Allez, en vrac. Richard Anthony, Léon Blum, Henri Fonda, Georges Marchais, Jacques Higelin et quelques autres. Maurice Piala, Jacques Prévert, Roger Planchon pour des artistes et Jules Verne. Qui a écrit de la Terre à la Lune ? Ah ben alors là, pile dans le sujet de l'émission, la Lune. Vous me suivez ou je vous ai perdu ? Ça m'arrive aussi, moi, de me perdre hein, quand je suis dans la Lune. Et même aujourd'hui, je ne sais plus quelle est mon humeur. Souvent, par principe, j'affiche une humeur, râleuse, de mauvaise foi au départ. Et puis, souvent, je m'y reconnais. Hein, car il est plus facile de dire ses pensées devant un micro que devant l'entourage ou un cercle d'amis. Il m'est même arrivé de faire des déclarations que même ma famille ignore et ignorera toujours. Peut-être alors qu'un micro et des auditeurs remplacent sa psy. Dans ce cas, je vous remercie de ne pas me prendre d'honoraires. En plus, je ne creuse pas le trou de la sécu, comme disent les chevaliers du fiel. Et comme ils disent aussi, car vous avez vu l'heure, 13h20, c'est l'heure du jaune, avec modération bien sûr. Alors bon appétit au mois prochain, et à moi la dernière citation. On a beau se délecter de la lune, on veut du soleil. Mathias, mets les yeux.
Eh bien écoute Michel, avec du soleil, avec la bonne nouvelle de la NASA sur le site RTBF Actu. La mission Artemis 2 s'est achevée avec succès. De retour sur Terre, les astronautes ont rapporté des milliers de clichés spectaculaires de la Lune, de la Terre et de l'espace capturés tout au long du voyage. Au total, pas moins de 12 217 photos ont été mises en ligne par la NASA, mêlant images impressionnantes et quelques prises insolites ou ratées. Contrairement aux missions Apollo limitées à l'époque par le nombre de pellicules disponibles, les astronautes d'Artemis ont pu se photographier sans véritable contrainte. Résultat, cette seule mission a presque égalé le total des clichés rapportés par toutes les missions Apollo entre 1961 et 1972, qui avaient ramené 13 887 images de la Lune selon l'Université de Toulouse. Une sélection de photos était déjà depuis avril sur le site de la NASA, mais l'intégralité des images prises pendant la mission est désormais disponible au public. Alors, avis aux passionnés.
Voilà, notre voyage au clair de lune touche à sa fin. Aujourd'hui, nous avons vu que la Lune est bien plus qu'un simple astre dans le ciel. Elle est à la fois objet scientifique, source d'inspiration artistique, territoire de conquête, miroir de nos émotions et parfois même support de nos croyances. Depuis toujours, elle accompagne l'humanité. Elle éclaire nos nuits, nourrit nos rêves et continue de fasciner chaque génération. Tout au long de cette émission, plusieurs citations sont venues ponctuer nos échanges. Nous avons notamment entendu des textes et pensées de Marc Escariolle, Mark Twain, Bertrand Vaque, Alphonse Allais, Humart Timol, Jean-Marie Gouriot, Bertrand de Révial, Mathias Malzieux et Robert Roca, sans oublier un proverbe populaire autour de la Lune. Nos autres sources sont le dictionnaire amoureux de la Lune de Dominique Simonet et également CNews, Radio France Nationale Géographique. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission. Merci à notre invité Florian Guillard et merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans De vous à nous, on vous dit presque tout sur Principe Actif. Vous pouvez nous retrouver sur le 102.4 à Évreux et le 95.9 dans le sud de l'Eure. Je vous souhaite une très belle journée et peut-être qu'en regardant le ciel ce soir, vous penserez autrement à la Lune. Sur quelques notes de la sonate au clair de lune de Beethoven.
Weiss, Bukayo Saka, l'enfant du club à droite, Odegaard, le capitaine en numéro 10, Leandro Trossard le belge et Kai Havertz en pointe, préféré à Victor Gyökeres le suédois. Voilà messieurs pour les compositions d'équipe alors que ça va démarrer dans quelques secondes.
Merci Cédric Delier et De Oliveira, on espère que vous allez pouvoir profiter tranquillement de cette rencontre à la Puskás Arena.
Vous savez, je suis là.
Alors on reviendra peut-être vous voir, on n'exclut rien, on ne s'exclut même pas d'aller jeter un œil sur le parcours de Moïse Kouamé à Roland-Garros qui est en plein troisième tour face à Tabilo. Il menait un 7 partout il y a encore quelques minutes. On va suivre ça aussi de près parce que on est comme ça RFI, il n'y a pas que le foot dans la vie. La compo d'équipe, un mot juste Patrick Juillard au moment où le coup d'envoi va être donné. Une logique implacable côté Paris, c'est plus étonnant côté Arsenal.
Oui, quelques choix forts de la part d'Arteta. Déjà Gyökeres sur le banc et Havertz en pointe parce que peut-être l'expérience des grands rendez-vous est plus forte chez l'Allemand. Et Incapier, donc préféré à Calafiori, peut-être un choix d'un profil plus physique, plus costaud, pour contrer les velléités offensives parisiennes. C'est Mosquera qui lui aura la lourde tâche d'essayer de contenir Kvaratskhelia. Donc ça, c'est un duel que je vais suivre avec une attention particulière, comme tous les journalistes sur place au dire de Cédric.
On est content, Victor, de revoir Ousmane Dembélé à 100%, c'est ce qui a été dit, et Sidela et Achraf Hakimi aussi sont deux maillons essentiels de ce tenant du titre, puisque le Paris Saint-Germain est bien tenant du titre.
Oui, c'est forcément Il y a un petit point de vue psychologique à avoir les 10 mêmes joueurs de champ que lors de la finale précédente, forcément. C'est sûr qu'il y avait ces petits doutes et on suivra Achraf Hakimi. Est-ce qu'il sera à 100%? Ça fait 6 semaines qu'il n'a pas joué. Ousmane Dembélé, pareil, quel est son état de forme? Il était sorti, on s'en souvient, contre le Paris Football Club lors de la dernière journée du championnat de France. L'avantage pour Luis Enrique, c'est qu'il peut compter sur absolument tout le monde, puisqu'il n'y a aucun absent dans l'effectif parisien.
Eh bien, nous, on a beaucoup douté depuis une heure et demie. Frédéric Suto s'est beaucoup employé, tout le monde, beaucoup de gens à RFI, et on a la chance de pouvoir compter sur Baptiste Le Duc. C'est bien le bon qui est au Parc des Princes avec une bonne ligne qui fonctionne.
Exactement. Et je me permets de remercier aussi Richard Rifono, qui a beaucoup aussi
aidé en coulisses
pour que cette ligne fonctionne. Donc, effectivement, et ça vient de partir d'ailleurs à la Puskás Arena. Ça vient donc de partir encore plus belle au Parc des Princes. On applaudit dès qu'on voit un Parisien à l'écran. On hue dès qu'on voit un gunner à l'écran. Je peux vous dire que le public ici est vraiment très chaud et que ces premières secondes, on a déjà l'impression que c'est comme si c'était les 5 dernières minutes. Le public pousse déjà à quelques centaines de kilomètres de Budapest.
Et la température, elle ne va faire que monter et pourtant elle est déjà terrible. On le sait à Paris depuis une semaine. On imagine l'étuve du Parc des Princes au moment où vous y êtes.
Ouais, j'essaye de voir. Il y a quelques personnes qui ont déjà fait tomber le maillot pour essayer de se rafraîchir un petit peu, mais globalement c'est un stade qui est quand même rouge et bleu et qui regarde là un premier coup de pied arrêté, hein. On en parlera pour Arsenal, cette arme, les coups de pied arrêtés, ça va finir cette fois en sortie de but et un renvoi aussi 6m50 pour Matvei Safonov.
Voilà pour ce début de match. On va peut-être s'observer un petit peu, ce serait logique, hein, Patrick?
Oui, ce serait logique, et puis je pense que le Arsenal a vu comme beaucoup d'autres la finale de la saison dernière, donc à mon avis les lignes vont être resserrées, les boulons vont être resserrés, particulièrement, d'autant que c'est l'identité de cette équipe, hein. C'est plutôt une équipe qui attend l'adversaire et qui va essayer de le piquer sur ses points faibles avec parcimonie mais efficacité.
Oui, c'est pas le jeu exaltant tout à fait du Paris Saint-Germain du côté d'Arsenal.
C'est plus le Arsenal de 2004 avec Arsène Wenger, hein. C'est plus le même style de jeu, c'est autre
les
chose.
Invincibles du dernier titre jusqu'à il y a quelques jours, des Gunners du dernier titre en première ligue. C'est pas sexy, mais c'est solide derrière. Je le disais, 6 buts encaissés en 14 matchs jusqu'ici, c'est pas mal.
Oui, face à la meilleure attaque qui est en l'occurrence le Paris Saint-Germain, oui, les Gunners, ils vont s'appuyer, Olivier, sur leurs forces, ce qui ont fait qu'ils ont remporté la première ligue, pas forcément magnifique, beaucoup de victoires 1-0, plus de 12, 13, 14 si je ne m'abuse, et voilà, un match qui sera sans doute plus tactique que celui de la saison passée, avec un rapport de force qui est, semble-t-il, différent. On le rappelle, hein, les Gunners, ils ont fini premier de la phase de ligue dans la Ligue des Champions. Certes, ils ont eu un parcours moins compliqué que le Paris Saint-Germain.
Oui, on regardait ça tout à l'heure depuis les huitièmes de finale. L'adversaire est moins clinquant. On peut peut-être rappeler le parcours d'Arsenal depuis les huitièmes. Eux étaient qualifiés directement pour les huitièmes puisqu'ils avaient fini premier de la phase à poule unique.
Ils ont affronté donc les Allemands du Bayern Leverkusen.
Ils ont encaissé un seul but dans le jeu depuis les huitièmes de finale. C'était contre le Bayer Leverkusen, voilà. En huitième. Donc ça montre aussi la solidité.
Avant d'affronter le Sporting Portugal après le
Bayer Leverkusen, Sporting Portugal.
Et en demi-finale, l'Atlético Madrid, où ça n'avait pas été simple pour se qualifier jusqu'en finale.
Et côté PSG, on rappelle le parcours un peu plus compliqué.
Alors de tête, c'était Monaco en 16e de finale, Chelsea en 8e, Liverpool en quart et en demi-finale, cette demi-finale d'anthologie contre le Bayern Munich. Et Patrick le résumé très bien,
PSG, trois anciens vainqueurs. Un finaliste et trois anciens vainqueurs, Arsenal, c'est deux finalistes sur la totalité des clubs qu'ils ont affrontés sur les trois. Donc c'est un parcours un peu plus Ligue Europa pour Arsenal et un vrai parcours Ligue des Champions haut niveau pour le PSG.
Et alors je vais livrer cette statistique tout à l'heure dans l'avant-match chez des confrères. Quand on sort le Bayern Munich en Ligue des Champions, on a 90% de chances de gagner la coupe derrière. Les statistiques n'engagent que ceux qui les croient.
Mais c'est vrai que le PSG a sur ses épaules ce soir la pression du favori. Et c'est une nouveauté pour cette équipe, puisque la saison dernière, sur le parcours, on se disait qu'ils avaient toutes les chances de l'emporter, mais il y avait toujours le poids de l'histoire, le poids des défaites passées, des revers passés. Ils ont vaincu définitivement ça l'an dernier à la même époque.
Troisième finale en 6 ans, hein, aussi, voilà. Ça, l'expérience est là.
Ils l'ont enfin gagné, donc Et maintenant, ils ont le poids du favori. Il faut se mettre dans un nouvel état d'esprit pour surmonter ce poids qui peut parfois vous inhiber, qui peut parfois vous empêcher de dérouler comme vous l'avez fait jusqu'à présent.
Justement, j'ai une petite question, Patrick, que posait un auditeur sur cette notion de pression. Est-ce que en cas de défaite pour le Paris Saint-Germain, la saison, là, ça deviendrait un échec pour les Parisiens?
Ben, c'est un échec.
Oui. On a entendu Cédric.
Messieurs, ouverture du score. Ouverture du score pour Arsenal. Je peux vous dire que ça jette un froid au Parc des Princes. Kai Havertz parti tout seul dans le dos de la défense parisienne, qui vient glisser ce ballon sous la barre de Matvei Safonov. Ouh, ça commence mal pour le PSG.
Ah oui, le PSG pris totalement à revers là. Un contre. Et une frappe en angle fermé, Safonov.
Alors que Paris tenait le ballon timidement depuis le début, mais là c'est une perte de balle assez haute au niveau de la ligne médiane. Et tout de suite Kai Havertz qui est parti, qui a trouvé personne sur sa route, qui est allé jusqu'au bout de son action, et pied gauche qui vient frapper ce ballon hors de portée de Matvei Safonov juste sous la barre. Je pense que c'est le début de match idéal que recherchaient les hommes de Mikel Arteta.
Est-ce que ça n'est pas le début de match idéal tout court pour tous ceux qui aiment le football et qui veulent voir une grande finale, une finale ouverte et pas... Même si elle s'était bien terminée, que tout avait été merveilleux pour Paris la saison passée, elle avait été pliée assez vite.
Attendez, parce qu'il y a peut-être une main. Il y a peut-être une main de Leandro Trossard sur une tentative de dégagement de Marquinhos. On vient forcément de réagir dans les tribunes du Parc des Princes. Ah, on le voit clairement.
Oui,
ce genre de main offensive, en général, elles sont sifflées, on le sait.
Ah bah oui, parce que s'il n'y a pas la main, forcément le ballon ne revient pas dans le bon sens.
Exactement.
En quelque sorte, qui lance Havertz vers le. Qui met Havertz dans le bon sens, effectivement.
Cédric, vous êtes là à la Puskás Arena.
Oui, ben en fait, l'arbitre a tout de suite décidé de ne pas aller voir la vidéo. La décision a été prise de valider ce but, on va dire. Les arbitres vidéo n'ont pas cherché à aller.
Ils ont jugé que c'était pas une erreur manifeste.
La main est collée au corps. Ouais. La main est. Il n'élargit pas sa surface. Et aussi difficile de siffler ce genre d'action, alors que c'est à bout portant.
On a vu ici Luis Enrique passablement énervé, on va dire, sur cette action. Ça commence déjà à râler un petit peu sur le côté gauche, et notamment sur celui de Nuno Mendes, qui a pris un petit savon là il y a quelques secondes.
4 buts en 6 matchs, en tout cas pour Kai Havertz, l'international allemand.
Et c'est un des choix forts d'Arteta qui est validé par ce début de match, puisqu'il était en balance avec Gyökeres pour débuter. Et comme j'avais dit que c'était sans doute son expérience des grands rendez-vous qui lui avait donné la priorité, finalement c'est un choix payant, puisque première occasion et but...
Ça va obliger Paris à aller encore un peu plus de l'avant. Et on l'a dit et répété, cette équipe Arsenal qui n'a encaissé que 6 buts dans cette campagne, donc une défense qui tient la route. Et il va falloir la contourner invariablement, immanquablement, pour espérer au moins égaliser et ensuite aller chercher le titre. On retourne au Parc des Princes avec Baptiste Leduc. L'ambiance, forcément, s'est calmée.
Oui, c'est calmé, mais bon, les deux tribunes, les deux virages continuent quand même de chanter un peu plus timidement, c'est vrai. Je pense que tout le monde est un petit peu surpris de voir Arsenal ouvrir le score.
28 concerts, 3 jours, 2 scènes, un camping, de quoi se rafraîchir et se restaurer. Le festival Ça sonne à la porte fête ses 20 ans. Et comme tous les ans, Principe Actif est présent.
Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juin, durant ces 3 jours, la radio vous propose interviews, reportages, micro-trottoirs les pieds dans l'herbe, live improvisé et plus si affinité.
Bref, de quoi vous donner l'envie de nous rejoindre ? Pour le CSALP édition 2026, le tout en totale gratuité. Eh, venez, on s'y retrouve.
Oh ouais.
Dans le cadre des jeudis juin, Principe Actif est mis à l'honneur pour la seconde année consécutive. 5 de vos émissions préférées et leurs animateurs s'emparent des platines le jeudi 4 juin à partir de 18h30 au Cube à Évreux pour une sélection musicale riche, variée, détonnante. Rejoignez-nous pour un moment partagé, convivial et festif. Le tout en totale gratuité. Bar et food sur site.
Principe Actif à Évreux
sur le DAB+.
Sur le DAB+.